Bonjour à chacun. Malheureusement, je n'ai pas de rébus pour vous ce matin. On va juste attendre que la technique soit au diapason. Merci. Le culte de ce matin, vous l'avez compris, s'inscrit dans cette initiative du dimanche de l'Église persécutée. Initiative qui a commencé il y a quelques années maintenant, initiée par l'association Portes Ouvertes, qui œuvre, vous le savez pour la plupart d'entre vous, en faveur des chrétiens persécutés, de l'Église persécutée dans le monde. Portes Ouvertes est une ONG internationale. Elle travaille partout, donc, dans le monde pour soutenir les chrétiens qui sont dépourvus de liberté religieuse. Cette liberté religieuse est un droit fondamental que l'on trouve dans l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour soutenir les chrétiens dépourvus de liberté religieuse et qui souffrent d'oppression et de persécution. Le but de cette association, donc, est de fortifier par un soutien spirituel, moral et humanitaire les communautés chrétiennes fragilisées. On n'en a pas trop entendu parler, à moins de suivre un petit peu tout ça de près, mais en 2014 et en 2010, l'ONG Portes Ouvertes a été nominée au prix Sakharov, qui est délivré par le Parlement européen pour la liberté d'expression et la défense des droits de l'homme. Pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, qui suivent parfois cette association depuis des décennies, vous savez que tout a commencé il y a 60 ans aux Pays-Bas, en 1955, alors qu'un jeune néerlandais, alors je ne vais pas le prononcer sans doute très bien, Anne van der Bijl, mais on le connaît sous le nom, l'alias de Frère André. Frère André qui s'est rendu derrière le rideau de fer à l'époque, ça existait encore, et il va y découvrir cette dure réalité de la persécution, des chrétiens persécutés. Et c'est à son retour qu'il va décider de tout mettre en œuvre pour venir en aide à ces chrétiens. Et plusieurs personnes vont se joindre à lui, et c'est ainsi que Portes Ouvertes va naître. Un dimanche de l'Église persécutée, d'accord, très bien, mais pourquoi faire? À quoi ça sert? Il y a plusieurs réponses à apporter à cette question. J'aimerais essentiellement considérer avec vous la réponse qui me semble être la principale, en tout cas celle que je placerai en premier. Un dimanche de l'Église persécutée, pourquoi faire? Principalement pour parler de cette réalité, pour en parler, pour parler de l'Église persécutée. Il me semble que c'est une réalité qui, pour nous occidentaux, qui pour nous, ni moi, français, peut nous paraître bien lointaine, parfois même bien abstraite, bien irréelle, à nous qui vivons avec ce privilège de la liberté de conscience, avec ce privilège de la liberté de culte. Pourtant, la persécution des chrétiens de l'Église de Jésus-Christ n'est pas un phénomène nouveau, ce n'est pas un phénomène récent, ce n'est pas une mode passagère. Depuis la naissance de l'Église, depuis le jour de Pentecôte, de la première Pentecôte, des disciples de Jésus-Christ ont toujours, quelque part dans le monde, été persécutés à cause de leur foi. Avant de retourner auprès de son Père, Jésus a donné cette parole à ses disciples : « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Non, la persécution des chrétiens dans le monde n'est pas un phénomène nouveau ou récent. Ceci dit, s'il est vrai que la persécution des chrétiens a été comme une constante dans l'histoire de l'Église, il est vrai aussi qu'il n'y a jamais eu autant de persécutions que ces dernières décennies. Bien évidemment, il n'y a jamais eu autant de chrétiens dans le monde que ces dernières décennies. Ça explique sans doute en partie cette réalité, mais je ne pense pas que toute l'explication se trouve là, dans cette amplification de la persécution des chrétiens dans le monde aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la persécution ? J'ai beaucoup utilisé pour préparer ce message le dossier qui est mis à disposition par Portes Ouvertes pour ce dimanche. Et pour Portes Ouvertes, la persécution des chrétiens est entendue au sens biblique du terme, est considérée comme persécution toute hostilité à l'égard d'une personne en raison de son identification à la personne de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ». La persécution au sens large se définit donc comme une attitude hostile, des agressions tant verbales que physiques ou matérielles envers les chrétiens, que ce soit de la part de chrétiens d'autres dénominations, malheureusement cela existe dans certains pays, de la part d'athées ou d'adeptes d'autres religions. On peut noter que cette persécution vécue par nos frères et sœurs en Christ dans le monde est caractérisée par deux types de violences. Il y a, en tout cas c'est celle dont les médias s'emparent de temps en temps, il y a la violence physique et matérielle que l'on peut appeler soudaine. Elle fait l'effet d'un coup de marteau. Et il s'agit souvent de celle qui est la plus manifeste, parce qu'elle est chiffrable et souvent spectaculaire. Il s'agit d'assassinats, d'églises brûlées, ce genre de violence physique, matérielle et soudaine. Et puis, il y a un autre type de violence, la violence que l'on pourrait dire d'oppression, qui est faite de rejet, de discrimination, d'exclusion, d'emprisonnement. On pourrait ajouter la liste, enfin on pourrait allonger la liste. Cette violence est subie au quotidien. C'est pas un coup de marteau, mais c'est l'effet d'un étau qui se resserre et qui touche tous les domaines de la vie du chrétien. Vie privée, vie familiale, vie sociale, vie civile, vie ecclésiale. Alors cette dernière forme de persécution est bien évidemment beaucoup moins visible que la première. Mais pourtant, c'est son impact à long terme qui est souvent le plus néfaste. La persécution antichrétienne, nous le savons, peut se produire partout dans le monde, même en France, bien évidemment sous des formes bien atténuées par rapport à ce qui se passe dans certains pays, mais il peut aussi y avoir dans nos pays de la persécution sous une forme ou sous une autre. Pourtant, cette association Portes Ouvertes va focaliser son travail là où les besoins sont les plus importants, et on le comprend. Là où la persécution est la plus vive, la plus étendue, dans les pays où les droits de l'homme sont ouvertement bafoués. Et c'est pour cette raison que l'index mondial de la persécution qui nous a déjà été montré, se limite aux 50 pays où la persécution est la plus intense. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de cet index mondial de persécution ? J'ai pensé qu'il était intéressant de s'arrêter quelques instants sur les réalités derrière cet index. Alors, je cite un petit peu en longueur ce qu'en dit Portes Ouvertes. L'index mondial de persécution est l'outil utilisé par Portes Ouvertes depuis 1997 pour mesurer l'évolution, l'étendue et l'intensité de la persécution des chrétiens dans le monde. Le classement de l'index est le résultat d'un travail méticuleux. Nous rassemblons des informations provenant de sources très différentes, religieuses et laïques. Nous vérifions et recoupons l'information en provenance du terrain avec celle qui est diffusée par d'autres organismes, presse, instituts de recherche, autres ONG, etc. Nous comparons de nombreux questionnaires que nous envoyons à des personnes internes et externes à l'ONG. Nous notons et classons les pays en fonction des informations recueillies et analysées. L'index est croisé avec différentes sources afin d'en garantir l'objectivité. Les experts consultés sont d'une part des chercheurs spécialisés de portes ouvertes et d'autre part des experts externes. La méthodologie de l'index vise à en garantir la crédibilité tout en offrant la transparence, l'objectivité et une qualité scientifique. Fin de citation. Alors ça, c'est l'explication générale. Maintenant, comment est établi cet index? Cet index, en fait, va définir 5 sphères distinctes où les violences faites aux chrétiens sont mesurées. Toutes les oppressions subies dans ces 5 sphères. Il y a tout d'abord la vie privée et le domaine de la liberté de conscience. Il y a ensuite la vie familiale, où le persécuteur cherche à stopper la transmission de la foi que les parents, par exemple, peuvent transmettre à leurs enfants. La vie sociale, qui revêt très souvent dans ces pays une grande importance. Quartiers et populations sont très homogènes. Ce n'est pas l'individualisme de l'Occident, pour dire les choses autrement. La vie civile ensuite est la possibilité ou non pour un chrétien de prendre part à la vie publique. On a parlé d'emploi, de perte d'emploi, etc. Et puis enfin la vie ecclésiale et toutes les restrictions qui tournent autour des cultes en particulier et des lieux de culte. Ça, ce sont donc les 5 sphères où le regard va être porté. Et puis ensuite, il y a tout un barème avec des questions et des points qui sont attribués et qui donnent le résultat suivant en fonction des points. Plus le nombre de points obtenus est important, plus grand est le degré de persécution dans le pays. On le comprend assez aisément. Le total, le maximum de points, c'est 100. Et vous verrez que certains pays s'en approchent vraiment beaucoup. Et ça donne 4 catégories qui correspondent aux couleurs qu'on a vues sur la carte précédemment. Entre 86 et 100 points, c'est la couleur noire sur la carte, on considère que la persécution est absolue. Il n'y a aucune liberté pour les chrétiens. Les zones en rouge sur la carte totalisent des points qui vont de 71 à 85. On considère que la persécution y est extrême. Puis il y a les zones en orange, entre 56 points et 70, persécution très sévère. Et puis entre 41 et 55, les zones en jaune, la persécution est dite sévère. Alors ça nous ramène à cette carte qui est un peu plus floue que celle qu'on a vue précédemment, de cet index mondial donc publié en 2015 par Portes Ouvertes. Je n'ai pas voulu faire le catalogue, mais j'étais agréablement surpris de voir que ces dernières années, vraiment ces toutes dernières années, de grands médias s'en saisissaient, reçoivent les dossiers de presse, Le Monde, Le Figaro, etc., et publient maintenant régulièrement cet index mondial de la persécution. On retrouve ces 4 couleurs donc, 3 pays en zone noire, persécution absolue, 11 pays en zone rouge, persécution extrême, 19 pays en zone orange, persécution très sévère, 17 pays en zone jaune, persécution sévère. Alors ici, je pourrais vous entretenir sur avec le dossier de Portes Ouvertes pendant un bon moment, en vous donnant le détail pays par pays, mais ce n'est pas le but ce matin. Nous n'avons pas le temps pour cela. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller sur le site de Portes Ouvertes, portesouvertes.fr, où vous allez retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, et en particulier les commentaires sur ces 50 pays de ce classement. J'aimerais néanmoins juste donner les 6 tendances qui ont été dégagées par Portes Ouvertes pour le classement 2015. La première tendance, c'est que pour la première fois, on trouve 3 pays en zone noire, en zone de persécution absolue. La persécution, dit Portes Ouvertes, augmente encore et le pire ne semble ne jamais atteindre son paroxysme. La Corée du Nord est en tête de l'index mondial de persécution depuis 2002, totalisant à chaque fois plus de 86 points de persécution sur un total de 100. Elle atteint désormais 92 points et est suivie de près par la Somalie, 90 points, et l'Irak, 86 points. Deuxième tendance soulignée par Portes Ouvertes, 4 continents sont concernés, Afrique, Asie, Amérique, Europe. La persécution contre les chrétiens s'intensifie et continue à s'étendre dans le monde, même dans des pays qui étaient jusqu'à pas très longtemps des pays à majorité chrétienne ou qui le sont encore, des pays à majorité chrétienne. Et on constate, enfin Portes Ouvertes constate, une nouvelle hausse des points de persécution qui sont attribués à chaque pays. On retrouve beaucoup des mêmes pays d'une année sur l'autre, mais les points augmentent. Le degré de persécution semble s'intensifier. Si on fait le total de tous ces points, 50 pays sur 100 points, donc il y a 5000 points possibles, vous avez en 2014 3019 points et puis en 2015 3170. Troisième tendance, l'extrémisme islamique, principal mécanisme de persécution. C'est le cas dans 40 des 50 pays de l'index, que ce soit une persécution violente ou alors tout simplement une oppression. Sur les 10 pays où les chrétiens subissent le plus de violence, 8 connaissent aujourd'hui une radicalisation islamique. Nigeria, Irak, Syrie, Centrafrique, Soudan, Pakistan, Égypte et Kenya. Les 2 autres pays sont le Myanmar et le Mexique. Ah, j'avais dit 4, mais j'en étais qu'aux 3. Quatrième tendance, de plus en plus de chrétiens chassés de chez eux. De nombreux chrétiens doivent aujourd'hui fuir devant les persécutions, ce qui crée, nous le savons, un flot dans certaines parties du monde, un flot sans précédent de réfugiés et de déplacés, parfois internes dans le pays et parfois, bien sûr, vers d'autres pays, mais toujours laissant ces populations dans une extrême précarité. En Syrie, 40% de la population chrétienne, ce sont les chiffres, a quitté le pays. Sur les 1,8 million de chrétiens qui étaient recensés dans le pays, avant la guerre, 700 000 sont déjà partis. En Irak, depuis l'été dernier, 140 000 chrétiens ont été déplacés et 5 000 familles chrétiennes ont émigré. Au Nigeria, des milliers de chrétiens ont été chassés de chez eux par Boko Haram. En Érythrée, ils quittent le pays pour échapper à la prison. Cinquième tendance, les chrétiens de plus en plus marginalisés, socialement et culturellement. Cette année, le seuil d'entrée dans cet index mondial de la persécution est de 49 points. C'est le Koweït. L'année dernière, il n'était que de, entre guillemets, que de 45 points. Donc, on rentre avec beaucoup plus de points. Cette augmentation de points est en général liée aux pressions et aux discriminations familiales, sociales et culturelles qui sont vécues par ces chrétiens au sein de la société. Sixième et dernière tendance de ce classement 2015, l'Afrique dans la tornade. Parce que c'est dans les pays d'Afrique que la progression est la plus évidente. Et en particulier en Afrique subsaharienne, c'est là que la persécution, aujourd'hui, augmente le plus rapidement. Et pour la troisième année consécutive, c'est un pays d'Afrique qui connaît la plus forte progression dans ce classement. En 2013, il s'agissait du Mali. En 2014, c'était la Centrafrique. Et en 2015, il s'agit du Kenya. Il était à la 43e place dans le classement 2014 et il se retrouve à la 19e place dans le classement 2015. Alors, encore quelques chiffres. Quelques chiffres toujours publiés par Portes Ouvertes. Des chiffres qui sont très certainement en dessous de la réalité. En dessous de la réalité parce que de nombreux assassinats sont tout simplement passés sous silence. Passés sous silence parce qu'ils arrivent dans des lieux trop isolés pour que l'information parvienne à portes ouvertes, dans des lieux dangereux où il n'y a pas vraiment de témoignages, ou des lieux difficiles d'accès. C'est le cas dans beaucoup de ces pays, en tout cas au sommet du classement, la Syrie, l'Irak, le Nigeria, le Cameroun, le Centrafrique, Myanmar et bien évidemment la Corée du Nord où très peu d'informations parviennent. L'intérêt de ces chiffres, c'est quand même de prendre un petit peu la mesure. C'est une chose de parler de persécution, c'en est une autre de parler de 4344 chrétiens assassinés à cause de leur foi en 2000. Ce sont des chiffres de 2013. Il y a en réalité deux fois plus d'assassinats de chrétiens que l'année précédente, puisque en 2014, en 2013, il y avait 2123, en 2012, 1200, et en 2014, 4344. Je rappelle que ce ne sont que des assassinats qui sont attestés. Il ne s'agit pas ici d'après ce que j'ai lu, de choses que l'on imagine, mais ce sont vraiment des assassinats où l'on a des preuves. Et puis, 1062 églises qui sont visées, soit dans le but de les détruire, ou elles sont alors détruites, soit de les endommager, soit déjà de les fermer. Concernant le nombre de tués, soulignons que c'est au Nigeria qu'on a assassiné le plus de chrétiens en raison de leur croyance l'année dernière. 2484 chrétiens, un chiffre qui a été multiplié par 4 par rapport à l'année précédente, où il était quand même déjà question de 612 assassinats au Nigeria. Le Kenya, l'Égypte, la Syrie font encore aujourd'hui partie des pays où le sang des chrétiens coule le plus. On constate aussi qu'en Centrafrique, beaucoup de chrétiens ont récemment perdu la vie dans des attaques, des Séléka et des anti-Balaka. Et puis, je disais des chiffres qui sont en dessous de la réalité, si nous avions les chiffres de la Corée du Nord, nous serions sans doute avec des chiffres bien plus importants. Mais là, les quelques informations qui arrivent à traverser la frontière sont bien, bien en dessous de la réalité, très certainement. Alors, je ne vais pas m'étendre sur trop de détails. J'aimerais simplement dire que, toujours concernant ce chiffre de 4344 assassinats, rappeler ici que tous les assassinats ne sont pas comptabilisés. Et j'aimerais donner trois exemples rapportés par Portes Ouvertes. Le premier cas où les assassinats ne sont pas comptabilisés, c'est tout simplement quand la mort n'est pas rapportée dans un média. Ça arrive assez souvent dans ces pays-là, soit parce que les médias sont sous contrôle de l'organisme qui persécute, soit parce que la mort de ces chrétiens n'est tout simplement pas considérée comme une information suffisamment intéressante pour figurer dans un média. La seconde catégorie des assassinats qui ne sont pas comptabilisés dans ce chiffre, c'est quand des populations, des chrétiens meurent, sont tués parce qu'ils sont devenus très vulnérables en raison d'une guerre. Et là, il est bien évidemment très difficile de comptabiliser. Et puis, une troisième catégorie, quand les chrétiens décèdent en raison d'une discrimination qui dure parfois depuis de nombreuses années et qui les prive des droits élémentaires, comme dans certains pays, de l'accès tout simplement à un point d'eau. Et là, très souvent, c'est une mort lente qui se met en place. Des chrétiens, des populations qui vivent dans la plus grande précarité et qui vont, entre guillemets, mourir de mort naturelle, mais qui n'en est pas. Concernant les églises ciblées, encore quelques chiffres, et je m'arrêterai là avant de passer la parole à quelqu'un. Simplement pour les églises qui ont été ciblées, attaquées, il y en a, semble-t-il, un tout petit peu moins, mais c'est pas grand-chose, puisqu'il y en a 49 de moins entre le rapport de cette année et le rapport de l'année dernière, mais ça fait quand même 1662 églises attaquées, détruites, partiellement ou fermées. Et c'est malheureusement en Chine que ce type d'oppression a la croissance la plus importante en ce moment, puisqu'il est question de 258 églises ciblées en 2014 contre seulement 27 l'année précédente, soit une multiplication par 9 de ce chiffre. Un phénomène que l'on retrouve, semble-t-il, au Vietnam et que l'on va retrouver aussi dans un pays d'Afrique, le Nigeria, dont on a déjà parlé. Voilà, je suis conscient que ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup d'informations peut-être à digérer. Ça me paraissait quand même difficile de ne pas rentrer un petit peu dans le détail pour que nous prenions un peu plus la mesure de cette réalité, hein, parce que c'est malheureusement pour nous souvent que des mots ou une réalité que nous avons bien du mal à apprécier ou à comprendre. Alors avant de dire quelques mots de conclusion, j'aimerais maintenant passer la parole à Marido. Où est-elle ? Voilà. Marido qui tenait à partager quelques mots de témoignage. Elle a participé à un week-end de portes ouvertes le week-end dernier à Damary-les-Lys en région parisienne et elle va nous dire quelques mots maintenant.
Bonjour. Je vois certains d'entre vous sourire. Pardon. Je vois certains d'entre vous sourire parce que beaucoup d'entre vous savent que je n'aime pas me retrouver devant le micro. J'ai horreur de ça. Et pourtant, je ne risque pas grand-chose car je sais que vous serez indulgents. Ce n'est rien comparé à ceux qui risquent leur vie pour leur foi. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que ça me tenait vraiment à cœur. C'est, tout ce que j'ai entendu m'a vraiment donné le courage de venir vous parler aujourd'hui. Je ne pouvais pas m'en empêcher, c'était beaucoup plus fort que moi. Donc j'ai participé la semaine dernière à un week-end de portes ouvertes, qui, je le rappelle, est une ONG donc, qui soutient les chrétiens persécutés en fournissant une aide spirituelle, matérielle, humanitaire. Et j'ai pu le constater de mes propres yeux parce que je suis partie en voyage avec eux il y a 2 ans au Maroc. C'est un week-end donc riche en émotions où j'ai pu écouter des interventions de pasteurs, d'équipiers de portes ouvertes qui travaillent sur le terrain dans des conditions extrêmement dures, comme vous pouvez l'imaginer, en Irak, en Syrie, au Pakistan, au Nigeria, en Inde notamment. Donc je vais tenter de faire un résumé fidèle de ce qui m'a marqué, de ce que j'ai pu entendre. Pour commencer, une phrase m'a fait l'effet d'un électrochoc. Le sang des martyrs est la semence de l'Église. Le sang des martyrs est la semence de l'Église, car contrairement à ce que l'on croit, les églises ne désemplissent pas, bien au contraire. Le danger est quasi permanent face à Daesh, Boko Haram, l'hindouisme. Pourtant, des chrétiens affirment que leur foi a grandi à cause des tourments infligés, notamment par Daesh. En effet, beaucoup de chrétiens de tradition découvrent la véritable foi, y compris les musulmans écœurés par l'islam. J'ai entendu dire qu'une mosquée entière s'était tournée vers Jésus en Syrie. Les chrétiens persécutés ne demandent pas toujours dans leurs supplications à Dieu qu'ils soient délivrés, mais plutôt que le Seigneur les garde tout près de lui dans les épreuves. Chez nous, on s'interroge lorsque les gens désertent nos églises. À Alep, en Syrie, un pasteur qui est intervenu, on va l'appeler Séraphin, bien sûr, il est venu, il ne nous a pas donné sa véritable identité parce qu'il a risqué sa vie pour venir jusqu'à Damary-les-Lys. Il a dû affronter 50 checkpoints, 50 contrôles, et deux chrétiens qui suivaient derrière lui en voiture ont été kidnappés. Donc, c'est vraiment une réalité. Donc, ce pasteur à Alep interroge les fidèles qui continuent d'affluer. Ils ne comprennent pas pourquoi ils continuent de venir. Et il a demandé à une dame de 81 ans, « Mais pourquoi est-ce que vous continuez à venir ?» Elle a répliqué, « Je préfère mourir. » Excusez-moi, ça m'émeut. « Je préfère mourir sur le chemin de l'église à la rencontre de mon Seigneur. Je préfère mourir dans mon église plutôt que de mourir chez moi. » Parce que chez elle, de toute façon, elle n'était pas plus en sécurité. Il faut savoir que se rendre à l'église en Syrie, c'est affronter les bombes. C'est affronter les snipers, les tireurs embusqués qui vous prennent pour cible. C'est affronter les checkpoints qui sont nombreux. Prendre son pain, aller à l'école, ben on ne sait pas, on vit au jour le jour. On ne sait pas si les enfants vont revenir de l'école, on ne sait pas si on va revenir de la boulangerie. Ils vivent vraiment sur l'instant. C'est donc un parcours de combattant grandeur nature. Ce n'est pas un jeu vidéo. Un riche Irakien qui possédait 3 maisons, il conservait $1 million dans son coffre, a été totalement dépossédé par Daesh. Il affirme aujourd'hui, « Autrefois, j'étais riche, désormais, j'ai Jésus. » Résister à la persécution, c'est demeurer en lui. Quand on demeure en lui, en Jésus-Christ, on résiste à la persécution. Les chrétiens persécutés ne sont pas des super-héros, mais ils prennent la parole de Dieu au sérieux et la mettent en pratique. Les chrétiens persécutés pensent que les chrétiens de l'Occident ne sont pas prêts à affronter la persécution. Ils pensent que les encourager, cela nous prépare à affronter et à mesurer ce qui nous attend, car ils sont convaincus que nous aussi, nous verrons la persécution. Les chrétiens persécutés prient sans arrêt pour tout. Quand nous utilisons la prière, nous, en dernier recours, en dernier ressort, lorsque toutes les possibilités humaines sont épuisées, eux, au contraire, n'ont d'autre choix que de s'en remettre totalement à Dieu. Ce qui m'a touchée aussi, c'est que ces chrétiens ont une grande compassion pour les gens qui vivent autour d'eux. Ils prient pour leurs oppresseurs en toutes occasions. Ils prient pour que Dieu les bénisse, se révèle à eux. Ils apprennent à pardonner. Ils prient afin que leur bourreau soit renversé comme Paul sur le chemin de Damas. Et cela arrive. On a entendu dire que des hommes de Daesh ont été convertis. Et je pense, là il y a eu un témoignage qui m'a fait un petit peu sourire. Il y a un occidental qui s'appelle Ron, un pasteur hollandais qui forme les pasteurs au Pakistan notamment. Il était pris un jour dans un embouteillage au Pakistan, dans un taxi. Et il était entouré de deux pasteurs pakistanais. Il s'est assis dans le véhicule pour pas qu'on le découvre parce qu'il est blanc. Il avait peur du kidnapping. Et qu'ont fait les deux pasteurs pakistanais à ses côtés? Au lieu de prier pour que Dieu ferme les yeux de la foule, ils ont levé les mains comme ça, pardon. Ils ont levé les mains, ils ont brandi les mains contre les vitres du taxi. Ils ont dit, Seigneur, bénis ces gens, bénis cette foule, bénis ces voitures. Révèle-toi à eux. Alors que nous, dans un embouteillage, on a plutôt tendance à dire, allez, dégage. On lève les mains, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Alors, ensuite, les chrétiens assument leur foi. Ils affichent leur foi, ils portent des croix, ils mettent des croix sur leur maison. On nous a indiqué que Daesh inscrivait le signe Noun, le fameux N arabe qui désigne les Nazaréens, les chrétiens. En fait, ce n'est pas vraiment utile parce que les chrétiens ne cachent absolument pas leur foi. Ils savent très bien qui est chrétien et qui ne l'est pas à cause des croix qu'ils portent autour du cou, des tatouages et des croix qu'ils ont sur leur maison. Donc le signe Noun, ça fait penser à l'étoile de David, l'étoile juive, mais il n'est pas vraiment nécessaire ce signe-là parce que les chrétiens vraiment sont totalement décomplexés par rapport à leur spiritualité. Et je terminerai en vous disant quelques versets, en vous citant quelques versets. Je vous envoie au milieu des loups, c'est ce que dit le Seigneur. 2 Corinthiens 4, versets 8 à 11. Suivre Jésus, cela induit de la souffrance. Le Seigneur n'est pas plus grand que le Maître. Jean 15, versets 18 à 21. 1 Pierre 1, versets 6 et 7. Et pour conclure, un intervenant nous a encouragés, exhortés de la sorte, en disant « Soyez la voix de ceux qui ne peuvent crier à cause de leur souffrance. Soyez la voix de ceux qui ne peuvent crier à cause de leur souffrance. » Merci.
Merci Marie-Do d'avoir pris sur toi de venir parler devant tout le monde. Merci pour ce témoignage. On s'en souviendra dans les prochains embouteillages. En parler, c'est bien. C'est essentiel. Mais est-ce là tout ce qu'on peut faire? Bien évidemment pas. Il y a des actions concrètes qui sont possibles. On ne peut pas tous partir, on ne veut sans doute pas tous partir dans ces pays, faire ce que Marie-Do a fait il y a 2 ans. Quelques-uns le font et c'est très bien, mais tout le monde n'est pas appelé à faire les mêmes choses. Et parmi les actions que nous pouvons mener, nous, ici, à Nîmes, en Occident, il y a certainement, et c'est la plus importante de toutes, il y a la prière. Dieu a voulu que nous prions les uns pour les autres, c'est une réalité que nous trouvons à de nombreuses reprises dans le texte biblique. Dieu a voulu que nous prions d'une manière particulière puisque nous sommes invités à porter les fardeaux les uns des autres. Et c'est ainsi que nous pouvons intercéder pour nos frères et sœurs qui souffrent à cause de leur foi en Christ. Aux chrétiens de Thessalonique, donc aux Thessaloniciens, dans sa 2e lettre, Paul demande à ces chrétiens de prier pour lui. Et il leur demande 2 choses. Il leur demande de prier pour que la parole de Dieu se répande. Et puis, personnellement, il leur demande de prier pour lui afin qu'il soit délivré des hommes insensés et méchants. En d'autres termes, de ceux qui le persécutaient. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va quant à lui écrire « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme étant vous aussi dans un corps, et de ceux qui sont maltraités, comme étant vous aussi dans un corps. Nous en souvenir, c'est bien, en parler, c'est bien, certainement pas pour le plaisir, mais sans doute pour nous informer, prendre conscience de cette réalité, afin de pouvoir mieux intercéder pour nos frères et sœurs en Christ. Parce que nous faisons partie du même corps de Christ, comme étant vous aussi dans un corps, c'est cette réalité du corps de Christ, dont nous sommes tous membres si nous sommes en Jésus-Christ par la foi. Et vous le savez, je fais ici référence à ce texte de Corinthiens qui dit que quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. C'est en tout cas tout le corps qui devrait souffrir. Dieu désire que nous prions donc les uns pour les autres et dans son infinie sagesse, Dieu a même voulu, et je ne sais pas comment il s'y prend, mais c'est la réalité que nous découvrons dans la parole de Dieu. Dieu a même voulu que son plan se réalise en réponse à la prière de ses enfants, bien souvent. C'est la raison pour laquelle nous pouvons être assurés que nos prières en général et nos prières pour l'Église persécutée ne sont pas en vain. Que dire de toutes ces prières qui, il y a quelques décennies, montaient vers Dieu pour l'Église clandestine, persécutée derrière le rideau de fer. Que penser de tout cela? Si ce n'est que Dieu écoute les prières de ses enfants et qu'il y répond, pas toujours comme nous le pensons, en tout cas, il y répond en son temps et dans son infinie sagesse. Alors oui, j'aimerais nous inviter à prier pour l'Église persécutée aujourd'hui et puis peut-être demain, après-demain, et pourquoi pas en faire une habitude. Remercier Dieu parce que dans ces pays où les chrétiens sont persécutés, l'Église grandit, ça nous a été rappelé. Remercier Dieu pour toutes les délivrances, et quand nous lisons des témoignages, c'est souvent de l'ordre du miraculeux, toutes ces délivrances que Dieu apporte à son peuple persécuté. Remercions Dieu pour toutes les délivrances qu'il accorde dans sa providence et dans sa souveraineté. Et puis demandons à Dieu que dans sa grâce, nous nous en souvenions, nous ne soyons pas oublieux, que nous nous souvenions de nos frères et sœurs qui souffrent pour prier pour eux. Demandons à Dieu d'accorder à ceux qui passent par l'épreuve tout ce dont ils ont besoin pour résister, d'accorder à ceux qui passent par la vallée de l'ombre de la mort de trouver concrètement en Jésus-Christ leur bon berger qui chemine à leur côté. Demandons à Dieu de les garder fidèles et de garder fidèles en particulier ceux qui sont invités à renier leur foi pour avoir la vie sauve. Demandons à Dieu de donner à tous la foi, la force et le courage, de soutenir et de veiller sur les familles en particulier, ces familles où c'est très souvent le père qui est emprisonné, qui est mis à mort, et la famille se retrouve démunie, sans moyens de ressources. Prions pour ceux qui sont en prison. Prions pour ceux qui sont rejetés par leur famille. C'est une des grandes réalités de la persécution, de ceux qui se retrouvent marginalisés dans la société, mais aussi au sein de leur famille, à cause de leur foi en Jésus-Christ. Prions pour que le témoignage de ces chrétiens soit ferme aussi auprès de ceux qui les persécutent. Prions parce que cela n'est pas en vain de le faire, je le redis. L'Église persécutée est une Église qui grandit. Et Marido a déjà cité cette phrase qui l'a interpellée, qui date en réalité d'il y a très longtemps, puisqu'elle a été dite la première fois par Tertullien, un des pères de l'Église, à cheval entre le IIe et le IIIe siècle. Le sang des chrétiens est la semence de l'Église. C'était déjà la réalité à cette époque, et ça n'a cessé de l'être depuis. Alors oui, prions avec persévérance, parce que la persécution est une réalité qui grandit, qui croît dans notre monde. Prions parce que ces chrétiens sont nos frères et sœurs en Christ. Nous sommes attachés au Christ avec eux. Et s'ils souffrent, nous devrions souffrir nous aussi. Prions parce que telle est la volonté de Dieu. Demandons à Dieu de mettre sur notre cœur le fardeau de cette Église persécutée. Et nous devons peut-être, et je me mets en premier quand je dis cela, demander pardon à Dieu pour le peu d'intérêt, finalement, pour cette Église persécutée. Y a-t-il d'autres choses à faire en plus de la prière? Il y aurait beaucoup de choses à dire. Et j'aimerais simplement terminer en présentant très rapidement quelques actions menées par Portes Ouvertes au cours de l'année écoulée. Et c'est peut-être pour nous le meilleur moyen de nous impliquer que de soutenir ceux qui sont déjà à l'œuvre, qui ont déjà des structures, qui sont déjà dans ces pays d'une manière ou d'une autre. Voilà quelques chiffres, quelques indications que l'on retrouve dans ces dossiers préparés par Portes Ouvertes. 326 000 formations ont été apportées en 2013. 120 000 chrétiens persécutés ont participé à un séminaire qui s'appelle « Tenir ferme dans la tempête ». 250 000 chrétiens ont bénéficié de projets socio-économiques, 500 écoles chrétiennes ont été construites, 300 églises détruites par la persécution ont été réparées, 57 700 chrétiens en grande détresse ont reçu une aide médicale et de la nourriture, 2,3 millions de Bibles et de livres chrétiens ont été distribués dans ces pays, 20 400 chrétiens persécutés ont appris à lire et à écrire, 8 000 familles chrétiennes ont reçu chaque mois une aide alimentaire dans le cadre de la campagne d'aide pour la Syrie, 309 195 signatures ont été recueillies et présentées à l'ONU et au Parlement européen à Bruxelles. Voilà quelques chiffres qui nous montrent des manières concrètes d'agir et pour nous qui pouvons soutenir une ONG, une association comme Portes Ouvertes, c'est aussi participer à ces efforts. Et puis, je projette encore ces activités de Portes Ouvertes en France en 2013, où on voit des rencontres qui aboutissent sur des signatures. La première image, c'est la coordination des chrétiens d'Orient en danger devant l'Assemblée nationale et le Sénat et le ministère des Affaires étrangères. Projet dans lequel étaient impliquées Portes Ouvertes. 79 voyageurs pour livrer de la littérature dans des pays fermés ou lors de voyages d'intercession. 613 églises en France et Belgique qui participent au dimanche de l'église persécutée, etc. etc. Le magazine et puis d'autres rendez-vous, d'autres manières de faire connaître la réalité de l'Église persécutée. Et toutes ces actions, vous le savez comme moi, sont possibles grâce aux dons de ceux qui généreusement donnent à Portes Ouvertes et d'autres associations qui travaillent pour l'Église persécutée. Il y en a bien d'autres encore. Et nous avons pensé que peut-être l'un ou l'autre serait intéressé de faire un don. Et donc, pour ceux qui le souhaitent, il y a des enveloppes qui sont dans l'entrée de l'Église, labellisé « Chrétien persécuté ». Il y a la boîte habituelle où vous pouvez mettre cette enveloppe et on la laissera une ou deux semaines et ensuite on enverra tout ça à Portes Ouvertes. Et si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal, il suffit que vous mettiez le chèque à l'ordre de Portes Ouvertes et vous recevrez ensuite un reçu fiscal. Alors, ce n'est pas vraiment notre habitude de terminer le message par un moment de prière. Mais j'ai eu à cœur que ce soit ainsi, que nous puissions déjà un peu nous emparer de tout ce que nous avons entendu pour déjà commencer à le digérer. Il y a beaucoup de choses à digérer. Et puis commencer ensemble notre intercession. Et avant de prendre quelques instants dans la prière, j'aimerais que nous nous levions pour chanter un chant qui nous rappelle que nous pouvons ensemble porter nos fardeaux. Et après, je vous invite donc à prendre un temps dans la prière.